Salut les smarts et salut les marques et bienvenue sur Catch Up, votre podcast qui transpire le catch. Je suis l'amiral Armbar et aujourd'hui on est le 4 mai. Donc 4 mai c'est déjà le Star Wars Day, hein. Donc May the Force be with you à tout le monde. Mais on n'est pas là pour parler de Star Wars, hein, ni de Jedi, mais on est là pour parler de catch évidemment. Et c'est un nouvel épisode donc de NX tout seul. Je reprends un petit peu les rênes donc qui après une grosse saison de WrestleMania a besoin un peu de refresh et de repos. Donc on va parler aujourd'hui de NXT du 2 mai. De mai 2018, j'en profite pour saluer le Koala et Monsieur Tom qui sont là sur le chat, hein. N'hésitez pas à interagir tout du long de l'émission puisqu'on est en live. Donc NXT du 2 mai, ça commence la plus belle des manières puisque c'est The Undisputed Era, évidemment. Ce quatuor maintenant, puisque Roderick Strong a rejoint l'équipe des anciens champions de la ROH, hein, de la Ring of Honor. Hein. On a un peu l'impression qu'il faut avoir été par le passé champion Ring of Honor pour pouvoir faire partie de l'Undisputed Era. Donc on a bien sûr leur chef charismatique Adam Cole, baby, qui commence en disant que grâce à lui, on a quelqu'un qui est devenu maintenant, c'est Oney Lorcan, hein, qui a eu un match contre Adam Cole pour la ceinture nord-américaine. Grâce à Adam Cole, Oney Lorcan est maintenant devenu finalement une réponse au trial poursuite, puisque quand il y aura la question contre qui Adam Cole a gagné sa première défense de titre nord-américaine, la réponse sera Oney Lorcan. Kyle O'Reilly a un petit mot pour le pote d'Oney Lorcan, Danny Burch, hein, qui est venu un peu s'immiscer dans ces affaires-là. Bobby Fish enchaîne en disant que là où il se fait soigner, puisqu'il est blessé, il a annoncé qu'il y aurait de nouveaux arrivants, puisque forcément les adversaires Undisputed Era finiront eux aussi sur le banc des blessés. Et Roderick Strong conclura en parlant de, Pete Dunne, hein, celui qui l'a trahi vilement, lâchement, pour toucher l'or des ceintures par équipe d'NXT. Donc en disant que si Pete Dunne n'a pas apprécié ce qu'il lui avait fait à TakeOver, eh bien ce n'est rien, ce n'est qu'une pâle comparaison par rapport à ce qu'il lui fera subir ce soir, puisqu'en main event, on aura donc forcément un match entre Pete Dunne et Roderick Strong. Donc déjà, un beau départ de show. Moi, j'adore ces petites vidéos de l'Undisputed Era qu'on voit en backstage, hein, sur une espèce de structure métallique avec leur theme song en fond. Je trouve que c'est super efficace. Ils sont très, très, très bons. Et c'est, mine de rien, je pense, la meilleure stable, le meilleur groupe que la WWE a actuellement dans son roster, tout roster confondu. En tout cas, moi, je goûte même mon plaisir, j'adore ce qu'ils font. Le Koala aussi, on le voit dans le chat, me dit que c'est une super promo d'Undisputed Era. Il aime beaucoup comment cette faction implique un max de catchers. Ouais, tout à fait. Forcément, vu qu'ils sont 4, il faut bien qu'il y ait du monde en face pour les employer dans des rivalités. En tous les cas, je trouve que le build de cette écurie, de cette faction est très intelligemment fait. Ces petites interviews backstage suffisent à nous montrer le caractère des gars qui, dans le ring, forcément, sont de base excellents. Donc, du coup, forcément, ça marche. En tout cas, moi, je suis gros fan de l'Undisputed Era. Et d'ailleurs, j'ai très hâte de les voir en live, hein, puisque petite info du Smart, le 11 juin, ils passent NXT au Cirque d'hiver sur Paris. Et il y a encore des places, on y sera avec au moins, il y a IRM, il y a Hank, j'y serai aussi. Donc voilà, si vous n'avez pas encore vos places pour le show et que ça vous tente, n'hésitez pas. Et puis si vous y êtes, surtout, faites-nous un petit coucou, ce sera très très cool de pouvoir parler avec vous. Voilà pour la petite info de digression, mais entendre le choc, The System en live, j'ai grande hâte. Premier match de la soirée, c'est Kairi Sane contre Chaza McKenzie. Si ce nom ne vous dit rien, c'est normal, hein, c'est un peu une jobbeuse du soir, même si elle a une sorte de petit entron avec son nom, qu'elle a une musique. D'ailleurs, je trouvais ça plutôt cool que dans cette émission d'NXT, ils présentent les jobbers qu'on verra tellement qu'une fois, a priori, quand même avec un minimum d'enrobage, j'ai envie de dire, qui fait que on y croit 2 secondes. Pas plus, mais 2 secondes, contrairement à Raw ou SmackDown, où les mecs sont déjà dans le ring généralement. On nous dit leur nom parce que c'est les commentateurs qui, quand ils les connaissent, nous le disent. Bref, là, j'aime bien aimer la façon d'amener cette McKenzie, donc qui nous vient de Sydney, Australie. On aura un petit chant Odzi Odzi aïe 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 dans le public, mais ça sera un match, announcement match, comme on dit, donc un match fait pour monter, buter quelqu'un. Et là, c'est bien sûr Kairi Sane, hein, la princesse pirate, qui remportera le match assez rapidement avec son Insane Elbow. Donc elle continue toujours à enchaîner les victoires, hein, cette japonaise. Et à la fin, donc, on aura eh bien, la soi-disant Lady of NXT, hein, Lacey Evans, qui arrivera dans le ring, qui avait perdu, rappelez-vous, dans un match contre, dans le dark match du dernier takeover contre Kairi Sane. Elle la joue plutôt bonne perdante. Elle fait « Ok, en tant qu'une vraie lady, je dois reconnaître qu'on a tort et qu'on a perdu. Kairi, bravo. » Elle lui tend la main. La japonaise, qui n'est pas non plus toute conne, même si elle est face, hein, hésite, sait pas, se pose la question, cherche le public, qui bien sûr fait gros non, non, non. Elle aura raison, hein, puisque eh bien, Lacey Evans n'attendra pas que la japonaise ait décidé de serrer ou non sa main pour lui mettre quelques coups de façon très illesque. Donc voilà, on aura très certainement un autre match hein, entre les deux, donc c'est plutôt pas mal. On peut se dire, bon, qu'est-ce qu'elle fait Kairi Sane à attendre avant d'arriver, d'aller jusqu'à la ceinture, hein, chercher Shayna Baszler, puisque bon, Kairi Sane a déjà vaincu Shayna Baszler pour remporter le Mae Young Classic Tournament il y a peu. Je trouve que c'est pas mal. Je trouve qu'il faut une petite rivalité intermédiaire qui soit pas que des matchs de 2 minutes contre des jobbeuses à Kairi Sane pour peut-être la légitimer, ne serait-ce aux yeux de ceux qui n'ont pas vu le Mae Young Classic, ne serait-ce que pour laisser un peu de temps aussi à Shayna Baszler de s'installer avant d'avoir ce match revanche. Moi, je trouve ça pas mal. En plus, ça permet de un peu asseoir le côté heel, le personnage heel de Lacey Evans qui, ma foi, s'en sort pas trop mal hein, dans le, en promo. Dans le ring, c'est pas trop ma cam. Mais ça va, j'ai vu pire. Alors, il y en a Dimitri qui nous rejoint. Coucou à toi. Alors, question de Koala. Que penses-tu du fait que Nikki Cross reste à NXT ? Alors, on peut en parler puisqu'on parle de la division féminine. Eh bien, moi, ça me gêne pas plus que ça. Beaucoup de gens, effectivement, ont été un peu surpris et peut-être déçus de ne pas voir Nikki Cross monter à SmackDown avec donc Sanity. Il y a un spot actuellement à NXT, dans les visions féminines, à pourvoir et Nikki Cross peut très 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 bien le remplir. Ce côté un peu tweener, chaotique, je pète un plomb, clairement plus face parce qu'elle est très over avec la foule, mais elle peut aussi, selon la circonstance, avoir des tactiques, des attitudes moins babyface que d'habitude, ce qui fait un point intéressant de son personnage. Et je pense que face à une Shayna Baszler, on a besoin d'avoir quelqu'un qui a du répondant, qu'un Lagnac, et qui a aussi ce côté folie et imprévisible qu'est Nikki Cross. Dans tous les cas, je préfère voir Nikki Cross rester à NXT si jamais elle est promise à de belles choses, à une belle rivalité, à peut-être des matchs pour la ceinture, peut-être même avoir la ceinture, plutôt que de l'avoir monté à SmackDown avec Sanity et rester en rôle un peu de valet ou alors de match pas très intéressant avec la division féminine. Donc du coup, c'est trop tôt pour le dire, mais j'ai bon espoir que Triple H et les bookers d'NXT aient de bons projets pour elle. Ils ne l'ont pas fait rester dans NXT pour rien, donc j'attends de voir, mais en tout cas, moi, j'ai plutôt bon espoir. Ça, c'est plutôt cool. Voilà, Monsieur Tom aussi, lui, est super content de voir qu'il reste à NXT. Je ne sais pas si c'est pour les mêmes raisons en tout cas. Mais voilà, quand on voit parfois comment la division féminine est traitée à SmackDown, on se dit, ou à Raw aussi, hein, pour ce qu'il en est, finalement, rester à NXT, c'est pas trop mal. Hein. En tout cas, voilà, à de la revoir dans les rings de NXT, j'espère peut-être la semaine prochaine ou dans 2 semaines. On continue avec ces dames, puisqu'on a une interview backstage de Candice LeRae, qui n'est pas seulement la femme de Johnny Gargano, même si on a l'impression qu'on veut nous la présenter que sur ce jour-là. Donc elle est interviewée hein, suite à la semaine dernière, ce qui s'est passé, puisque Johnny Wrestling avait un match de titre NXT Championship contre Aleister Black, mais il n'a pas pu aller jusqu'au ring, puisque Tommaso Ciampa, son frenemy, son meilleur ami, surtout meilleur ennemi maintenant, lui en a empêché et Johnny Gargano est reparti sur les civières dans une ambulance sous un au revoir sinistre de Tommaso Ciampa. Donc là, c'est Candice LeRae qui est interviewée et elle est très très émue. Elle nous joue un peu la partition que Ciampa était un ami de la famille, même il était membre de la famille, hein, il a été témoin à leur mariage, donc entre elle et Johnny Wrestling. Et elle ne le reconnaît plus, elle ne sait plus qui est ce taré. Elle pensait que cette année elle allait être super parce qu'elle est arrivée à NXT. Ciampa était enfin hors de tout propos. Johnny Gargano s'en était débarrassé. Il avait un match pour le titre. Eh bien non, elle n'en peut plus de ce mec qui pourrit littéralement leur vie. Et elle s'en va en pleurnichant, légitimement. On apprend qu'elle aura un match plus tard et contre un adversaire de taille, puisque c'est Belair, hein, donc, qui est très impressionnant. Donc on verra ce match-là plus tard. Donc ça n'augure pas du bon pour Candice, qui a l'air tout sauf concentré pour le match. Et c'est un peu ce qu'on verra tout à l'heure. Avant ça, on a une vidéo package de Lars Sullivan qui annonce l'ère de la destruction. Voilà, donc pourquoi encore nous faire aujourd'hui une vidéo sur Lars Sullivan qu'on connaît bien maintenant, hein, je sais pas. Il avait déjà été absent pendant quelques temps avant de revenir pour le match, fabuleux match à TakeOver pour le titre nord-américain de Match de l'échelle. Five Star, comme dit Mesler. Donc je sais pas pourquoi ils ont subitement l'impression d'avoir besoin de re-raconter qui est Lars Sullivan. Je crois, et son personnage assez bien ancré, mais bon, bref, bon, ça prend que 30 secondes, c'est pas trop grave. Match par équipe maintenant, on a TM61, donc les Mighty Australiens, contre les Street Profits. Un match plutôt disputé entre deux équipes qui sont, ma foi, tout à fait dynamiques, face et bon avec le public, hein. Le public d'ailleurs a un bon petit chant, TM61, let's go Street Profits, mais à la fin, eh bien, surprise, gros choc, puisque c'est TM61 qui gagne, sauf que c'est à ce moment-là Shane Thorne qui fait le tomber, une sorte de petit paquet sur Montez Ford, et il met ses pieds sur les cordes du milieu, pour assurer le tomber, et c'est pas juste ça, c'est pas fini, puisque son coéquipier, donc Nick Miller, lui prend un des pieds pour être sûr d'appuyer la prise, et donc TM61 gagne, mais avec une tactique de heal. Et à la fin, quand ils repartent, le regard très en coin sur Arcane Acier et un petit doigt sur la tête, genre hey, on est malin, nous indique clairement que TM61 en a marre de perdre, et leur moyen pour pouvoir gagner, c'est de devenir méchant, devenir heal. Donc voilà, moi ça me plaît plutôt parce qu'ils avaient fait beaucoup d'efforts, la WWE, au retour de TM61. Ils avaient fait des vidéos package de leur passé au Japon, en Australie, de leur guérison suite à leurs différentes blessures. Et ils étaient revenus aux Dusty Road Tag Team Classic, ils avaient été éliminés assez vite, un peu dans l'indifférence, donc fallait simplement se rendre compte que oui, bah actuellement le trip Mighty TM61 ne marche pas. Des gentils high flyers d'Australie, ça ne marche pas pour juste comme ça. Donc il faut leur donner de la personnalité, il faut leur donner du panache, un certain chien. Et peut-être que c'est en les tournant heel qu'on va y arriver. En tous les cas, si ça permet de mettre une rivalité un peu plus personnelle entre eux et Street Profits, je pense que les deux équipes ont à y gagner. Je pense que TM61 aussi a un peu plus de dimension à prendre dans tout ça. Moi, ça me paraît pas mal. Franchement, je trouve que c'est plutôt joliment joué. Donc, il y a Koala d'ailleurs qui nous dit que c'est super, TM61, une jolie filouterie pour des autres babyface qui étaient en manque de caractère, un peu comme Roderick Strong, demande-t-il. Oui, clairement. Clairement, c'est le même schéma. C'est exactement ça. Roderick Strong, il y avait énormément de vidéo package sur sa vie pour qu'on ait de l'empathie, de l'emphase et de la sympathie pour lui. Très très bon dans le ring, mais à un moment donné, on sentait que ça touchait un plafond de verre. Et c'est vraiment, on a l'impression, du moins là, en s'associant avec l'Undisputed Era pour Roderick et en tournant heel, en trahissant les règles de l'art du catch pour battre les Street Profits, que peut-être que TM61 va prendre simplement la vitesse supérieure. En tout cas, c'est tout ce que je leur souhaite parce que quand même, dans le ring, ils sont foutrement bon. Suite à ça, eh bien, on a une vidéo qui nous hype un match gargantuesque pour la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, ce sera les War Raiders contre Heavy Machinery. Donc, les War Raiders, des anciens, donc effectivement, champions par équipe, qu'on disait au Japon, hein, les War Machines, de leur nom original, sont arrivés récemment. On attend un match, là aussi, un match contre des adversaires de taille. Et ce sera le cas contre War Machinery. Non, ça, c'est la combo des deux, rien à voir contre Heavy Machinery. Donc, voilà, une vidéo qui hype un peu la rencontre de ces Golgoth qui est programmée la semaine prochaine. La vidéo était pas sans sas, mais bon, elle vend un match forcément entre deux équipes qui sont juste des bulldozers, quoi, hein, clairement, littéralement, pour les machineries, ou des vikings assoiffés de victoire et de guerre pour War Raiders. À voir ce que ça donne, en tout cas, j'ai hâte de voir dans un match, j'espère qu'ils auront du temps, hein, de voir dans un match que donnent ces fameux War Machines qui sont assez populaires sur Internet, donc même si j'ai vu un match 2, mais qui était assez court, donc j'ai hâte de les voir dans une rencontre plus disputée. On revient backstage où on a donc Cassius Ohno qui lui est très 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 en colère avec ce qui s'est passé la semaine dernière entre Tommaso Ciampa et Johnny Gargano. On l'avait vu d'ailleurs dans une vidéo, je crois que c'est à la fin, avant que Johnny Wrestling soit mis dans une ambulance, on voyait Cassius Ohno qui lui tenait la main. Ça nous a rappelé d'ailleurs il y a quelques mois ou années, Cassius Ohno qui avait déjà fait ça avec je sais plus qui était parti en civière, qui était vraiment son pote, genre, ah non, toi, je te vengerai, et qui après avait défié forcément son agresseur. Et bien rebelote, là aussi, même schéma, mais c'est un schéma, pourquoi pas, qui marche. Donc on aura la semaine prochaine Cassius Ohno, le knockout artiste, contre Tommaso Ciampa. Donc Cassius essaiera simplement de venger son ami, hein, puisqu'il est très 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 pote, ce qu'on nous raconte, avec Johnny Gargano, et ça va être vrai vu les scènes de l'indépendant qu'ils ont tous les deux côtoyés pendant très 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 longtemps. Autre match, l'arrivée tant attendue, me direz-vous, pas tellement, du retour de Kona Reeves, qu'on nous vend dans plusieurs vidéos promo depuis quelques semaines, hein, une vidéo promo où il se fait appeler The Finest, donc le plus grand, le plus, le meilleur d'NXT. Donc Kona Reeves, qui est un Samoan, si je dis pas de bêtises, hein, vu les comparaisons qu'ils ont fait avec le Rock, ça semblerait être quand même de bon augure, qui a un gimmick là, clairement, voilà, oui, je suis le meilleur des NXT, The Finest, j'ai les plus beaux cheveux, j'ai la plus belle, les plus beaux bijoux, j'ai le plus beau machin, cela, voilà, je suis le Finest of NXT, clairement, je trouve qu'il a un peu une coupe un peu pourrie, qu'il a juste une chaîne en or un peu un générique autour du cou. Il a une grosse veste de costard blanche quand il arrive sur ring. Après, il est en slip avec des genouillères en dessous les genoux. Je sais pas. Son attitude, alors, contre qui se bat, contre Patrick Scott, hein, là aussi, un mec d'un soir qu'on verra pas, mais qui avait aussi un peu son nom marqué, tout ça, hein, qui n'était pas juste un inconnu. Donc Kona Reeves, qui est le vrai intérêt de ce match, hein, qui gagne très rapidement avec une espèce de version modifiée du Samoan Drop, je crois qu'il appelle ça le Hawaiian Drop, super, pas très original. Son gimmick, quand il est dans le ring, il est super énervé, le mec il est vénère, il est en train de beugler, je suis Kona Reeves, je suis le Finest of NXT, et il en met plein la gueule à l'autre, plutôt puissant, hein, il est très grand, il a une bonne envergure. Et après, une fois que c'est fini, il a un grand sourire, etc. Et je sais pas, pour moi ça marche pas. Déjà dans ses vidéos promo, il m'avait pas convaincu deux secondes. Je trouvais qu'il avait une gueule qui collait pas avec ce gimmick là, je sais pas. Il faisait des regards qui étaient un peu chelous. Il avait un sourire que je trouvais pas très 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 joli. Et surtout, c'est un gimmick pour moi qui est déjà présent à NXT. Si on prend le duo qui s'est séparé récemment, la semaine dernière, mais quand même, Tino Sabatelli et Riddick Moss, qui sont quand même, ok, on a plein de flingues, on a des beaux costards, on a des belles bagnoles, on est les meilleurs. Si on prend aussi un autre calibre, EC3, c'est ça, top 1%, hein, je fais partie du top 1% du monde en termes de richesse et aussi en termes de catch. Donc finalement, Kona Reeves, je le vois vraiment marcher sur les plates-bandes avec ce gimmick, sur plein de gens qui sont déjà dans NXT, qui ont plus de crédibilité dans leur personnage, en termes de charisme et dans le ring que lui. Donc franchement, si on me demande aujourd'hui qu'est-ce que j'en pense, eh bien, pas grand-chose, je ne vois pas un grand avenir à celui-ci, malheureusement. Peut-être qu'après, ça sera une façon de donner un EC3 light à EC3, parce qu'effectivement, EC3 peut dire, attends, mais on dirait que t'es une pâle copie de moi, mais version Taïwan, je ne sais pas. Donc voilà, Konaki, demande Monsieur Tom, et ouais, je pense qu'on oubliera son nom très rapidement, hein. Donc voilà, je suis sûr qu'on va le voir sniffer de la coke dans une séquence backstage, me dit quoi là. Il avait l'air totalement coqué, ouais c'est ça, il avait l'air vraiment genre la bave aux lèvres, les yeux qui pulsaient, c'était un peu étrange. Donc voilà, Kona Reeves contre EC3 contre Velvet in Dream, ça serait stylé. Je pense qu'un EC3 contre Velvet in Dream, ça serait très stylé, mais enlevons Kona Reeves de cette équation s'il vous plaît. J'en profite pour saluer Guillaume qui nous rejoint, bienvenue à toi. Donc voilà, Kona Reeves, moi j'entends rien du tout. En parlant d'EC3, eh bien du coup, on a une vidéo de lui, hein. Enfin, on en parle. EC3 qui dit que après avoir eu un match 5 star hein, à NXT, imaginez, c'était son premier match à NXT, imaginez ce que sera son second match. Eh bien, comme il le dit si bien, comme tout le monde le sait, les séquelles sont toujours supérieures, sont toujours meilleures que les premiers épisodes. En fait, non, c'est l'inverse, c'est pour ça que c'est drôle. Hein. Et on nous apprend que la semaine prochaine, il sera contre Raul Mendoza. Donc la semaine prochaine, pas mal de matchs plutôt alléchants qui nous sont déjà annoncés. Donc voilà, Ici Free qui nous annonce son début à NXT, du moins télévisé hors takeover. En tout cas, moi, ça me fait envie de voir ce qu'il va nous donner ce bon Ici Free. Et j'en parlerai un peu plus longuement en fin d'émission. On a un segment comme ils font NXT souvent de conférence de presse où on a une superstar qui est à l'extérieur et on a un micro NXT, plein de téléphones qui sont comme ça tendus vers cette personne. Là, c'est Dakota Kai qui est interviewée, donc elle a interviewé un peu sur la montée des femmes d'NXT récentes. Hein, donc elle parle de Iconic Duo, elle parle bien sûr de Amber Moon. Donc elle dit que c'est super, que ça laisse effectivement plein de places d'opportunités à NXT jusqu'à ce qu'un reporter lui demande et Shayna Baszler. Là, forcément, Dakota Kai change d'attitude, devient un peu plus l'animal terrifié qu'on lui connaît depuis quelques semaines. Elle est en difficulté de répondre quand on a Vanessa Bourne qui débarque et qui dit en gros que Dakota Kai est pathétique parce qu'elle a peur, hein, c'est un petit chat apeuré. Bourne, elle a peur de rien, elle n'a pas peur de Shayna Baszler, elle a pas peur non plus de Dakota Kai. Là, Dakota se reprend, fait, mais hé, meuf j'ai pas peur de toi, en fait, donc j'ai aucun problème avec toi, mais s'il faut, on va pouvoir se battre. Donc voilà, un match peut-être là aussi la semaine prochaine, dans 2 semaines, Dakota Kai contre Vanessa Bourne. Ce que j'en pense de cet angle de Dakota Kai qui est apeuré par Shayna Baszler, ben moi j'aime bien. Si jamais, encore une fois, le payoff c'est que ben elle surmonte sa difficulté, qu'elle surmonte sa peur et qu'à un moment donné elle décide de monter en puissance et d'affronter Shayna Baszler, pas forcément de gagner, mais au moins de surmonter cette peur là. Ça peut être une construction de personnage un peu intéressant, puisque pour l'instant, tel qu'on l'a présenté dans le Mayan classique et dans NXT récemment, Dakota Kai c'est un peu finalement un bel ébis. Hein. Elle arrive, elle est toute mignonne, elle a des couleurs, elle fait des petits signes kawaii comme ça, elle a une coiffure un peu choupie. Dans le ring, c'est très bon ce qu'elle fait, moi j'aime beaucoup, mais ça manque là aussi de personnalité. Donc mettre à profit la prise de l'écrasement du coude qu'elle a subi il y a quelques mois par Shayna Baszler pour en faire une personnalité qui est un traumatisme et qui va devoir battre des obstacles pour pouvoir reprendre confiance en elle et à un moment donné faire front et faire face à Shayna Baszler, ben c'est cool et c'est une très très bonne trame pour une face. Donc moi je suis plutôt preneur de ce genre de storyline. Donc voilà, une sorte de Bailey, ben oui on est d'accord, voilà, tout à fait, moi c'est comme ça que je la vois, la petite Dakota Kai que j'aime beaucoup. Un match des dames qui suit, donc on nous avait annoncé plus tôt, c'est Candice LeRae contre Bianca Belair. Donc forcément, Candice LeRae va jouer le fait dans le match qu'elle est, elle a l'esprit ailleurs, elle n'est pas très concentrée, elle est encore très affectée par toute cette histoire entre son mari Tommaso Ciampa et ce qu'on avait vu dans l'interview plus tôt. Donc elle est dominée très physiquement, très durement par Bianca Belair la plupart du match. À un moment donné, elle s'énerve un petit peu et enchaîne quelques belles prises, mais ça ne suffira pas. Puisque Belair bloquera le tornado DDT de Candice LeRae et gagnera le match avec son alley-oop. Moi j'ai bien aimé ce match, il y avait la psychologie mais bon qui était assez basique, mais bon on a eu des prouesses physiques de la part de Bianca Belair qui est impressionnante physiquement, c'est vraiment elle est incroyable. À un moment donné Candice LeRae est au sol et Bianca se baisse pour la ramasser et elle la ramasse de juste à la force de ses bras. Elle fait une military press pendant je ne sais pas combien de temps, même si Candice LeRae ne doit pas peser bien lourd, mais quand même, c'est assez incroyable, surtout que je trouve que Bianca Belair, elle n'a pas une stature à la Beth Phoenix, on voit de suite que c'est quelque chose d'ultra musculaire. Elle est très très affûtée, elle est musclée, mais elle reste aussi féminine, donc voilà, Bianca Belair, c'est une des révélations, vraiment, de ce Mae Young Classic Tournament. Et voilà, soit pour elle ou Candice LeRae, j'ai hâte de voir s'il y aura, je pense, un rematch. Hein, elle va forcément, moi j'imagine, si j'étais booker, je ferais ça, que Candice reprenne un peu ses esprits et refasse un match plus disputé contre Bianca Belair. Et là, on pourra avoir un très 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 bon match féminin. En tout cas, c'est mon avis. Ensuite, eh bien, le main event qu'on nous a promis, à savoir le champion United Kingdom, Pete Dunne, The Brotherweight, qui vient prendre sa revanche contre Roderick Strong, hein, puisque les deux étaient, comme on nous le rappelle, un peu l'équipe Cendrillon du Dusty Rhodes Classic, hein, donc deux personnes qui s'étaient battues l'un l'autre pour la ceinture UK, qui font équipe et qui arrivent jusqu'en finale, hein, et qui au dernier moment, paf, Roderick Strong, qui poignarde Pete Dunne pour la victoire de l'Undisputed Era et le fait maintenant qu'il ait cette ceinture. Alors, quand il arrive, Roderick Strong, il arrive sur son ancien Team Song, Et là, je me dis, oh merde, qu'ils arrêtent de nous faire chier avec ces histoires-là. C'était le même bordel entre le Shield quand ils l'ont remis ensemble la dernière fois, donc à Monday Night Raw, il y a quelques mois, où ils arrivaient parfois en musique du Shield tous les trois, et puis parfois c'était leur musique perso. Non, quand vous faites partie, si vous voulez vraiment builder une équipe, un clan, il y a un theme song, c'est celui du clan, et puis c'est tout, faut arrêter de faire un truc comme ça. Et je me suis dit, non, franchement, il déconne, même si Roderick Strong a sa veste, mais aux couleurs et aux armoiries de Nice Petit Dara. Et puis, il se met à genoux sur le Titantron, sa musique s'arrête, et là, choc, The System. Et Adam Cole débarque, et Kyle O'Reilly, et débarquent tous les trois au milieu du ring. Roderick Strong qui, comme d'habitude, ouvre sa veste et pour montrer d'habitude ses abdos, mais là il montre effectivement sa ceinture de champion par équipe avec un sourire, une attitude très orgueilleuse. Ouais, j'ai fait non, ok, bravo, c'est bien. Je pense que c'est la façon de terminer complètement la team song de Roderick Strong. Bref, voilà, j'avais une petite peur au début du match, mais finalement ça s'est bien résolu. Et puis derrière, on a eu quand même un putain de bon match, un putain de bon main event, hein, comme NXT sait nous en faire. Clairement, on pourrait dire qu'il pourrait y avoir plus de temps, évidemment, dans le match entre les deux, puisque Pete Dunne et Roderick Strong, ces deux gars, je pense qu'ils sont incapables de faire un mauvais match. En tous les cas, tout ce que je vois de ce qu'ils font dans la WWE, ils n'ont jamais fait un mauvais match, donc les deux ensemble, ça peut être que être très bon, surtout qu'il y a une bonne storyline. Donc voilà, c'est très disputé. À la fin, tout de même, c'est Pete Dunne qui prendra l'avantage. À partir du moment finalement où il prendra, et c'est la couverture de cet épisode, hein, les doigts de Roderick Strong comme ceci, comme pour les casser. Ce moment-là est fabuleux, pas tellement pour ce qui se passe dans le ring, mais ce qui se passe à l'extérieur du ring, puisqu'on a sur le bas de côté du ring Kyle O'Reilly et Adam Cole qui regardent ça, mais l'air genre horrifié. Genre, oh mon Dieu, non! Et quand ils le brisent, les deux font des gueules, mais juste phénoménal. Bref, un très 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 bon acting, surtout de Kyle O'Reilly qui m'a fait mais mourir de rire sur mon canapé. Quand je regardais l'épisode NXT, j'étais mort mort de rire, vraiment, c'était génial. Et donc, suite à ça, eh bien, ça finit avec un bitter end, le finisher de Pete Dunne sur Roderick Strong. Il fait tomber 1, 2, il n'y aura jamais 3, évidemment, puisque Adam Cole et Kyle O'Reilly rentrent dans le ring, interrompent le match, tabassent à 3 Pete Dunne qui est par terre et ne peut rien faire. La cloche sonne de nombreuses fois, mais rien n'y fait, jusqu'à ce que deux personnes arrivent. Et ce sera ben, effectivement ceux qui ont été cités dans la promo du début de l'épisode, hein, Danny Burch et Oney Lorcan. Donc voilà, les deux trios à la fin se toisent à la fin du match, enfin à la fin du show, ce qui nous tease évidemment une rivalité 3 versus 3, sachant qu'on va avoir aussi un show à Londres bientôt, hein, puisque comme ils viennent, je vous le disais au début de l'épisode, en juin à Paris, ils sont un peu avant à Londres, il y aura des matchs, donc il y aura forcément, je crois, effectivement un Pete Dunne, Roderick Strong, il y aura certainement un Adam Cole, et Kyle O'Reilly peut-être contre Lorcan et Danny Burch qui lui aussi est anglais. Bref, voilà, c'est un bon match qui n'est clairement pas le payoff, qui n'est clairement pas le match final entre les deux, mais un bon aperçu de ce qu'on pourrait avoir, une bonne gestion. Ça permet de vraiment finir d'intégrer Lorcan et Danny Burch qui vient de re-signer avec NXT, hein, puisqu'il avait son contrat qui se terminait. Ça remet ces deux équipes-là aussi l'une contre l'autre. Bref, ça construit tranquillement des petites storylines qui promettent d'avoir des matchs, ma foi, plutôt cool. Donc là-dessus, un épisode NXT assez fun qui est vraiment dans la continuité. On continue de construire des choses avec ce seul truc, ce retour de Konnor Reeves qui, moi, me convainc absolument pas. À part si c'est pour que Acid Free juste le détruise comme la pâle copie qu'il est. Et du coup, j'en viens à la question du smart, hein, puisque pour NX tout seul, vous pouvez poser votre question à l'avance et j'y réponds. Donc, du coup, là, c'était sur Twitter. Hein. Donc, c'est Diax qui nous parle donc de EC3. Je vous avais dit qu'on en reparlera en fin d'épisode. Et bien, qui me dit, je ne comprends pas le booking de EC3 et pourra-t-il être bien booké et avoir ensuite un match pour le titre ? Merci. Et désolé de mon absence, mais pas trop du temps. Alors, pas de problème pour ton absence, hein, tu fais bien ce que tu veux, et puis c'est l'intérêt, c'est que tous les épisodes sont en replay sur YouTube, donc tu peux le regarder quand tu veux. Et puis donc pour répondre à ta question, vaste question, puisque je ne peux pas prévoir le booking d'EC3, est-ce qu'il va avoir match pour le titre, mais oui, quel titre après, c'est la question, est-ce que ce sera pour le titre nord-américain ou le NXT Championship ? Les deux, mon capitaine, les deux sont tout à fait faisables, je pense, par rapport à son booking. Chose que je peux parler. Moi, je suis assez content de son booking parce que voilà, on nous l'a vendu. Il est arrivé en grande pompe pour ce match fabuleux de l'échelle au dernier takeover. Et là, comme dans sa promo, il disait voilà, C'était mon premier match, vous allez voir ce que c'est mon second. Bref, ils y vont mollo, ils vont pas le faire catcher toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Je pense que c'est intéressant de garder quand même aussi la logique de un peu à la Brock Lesnar que bah moi je suis ici free, je suis top 1%, je vais pas me battre toutes les semaines, quoi. Je me bats pas gratos, quand je me bats, faut qu'il y ait un intérêt, faut qu'il y ait un enjeu. Alors vous allez me dire, la semaine prochaine contre Raul Mendoza, il n'y en a pas. Bah si, c'est le premier match à NXT à la télé, en weekly. Donc du coup, ça peut suffire et justifier le fait qu'ils se battent contre quelqu'un qui n'a pas une grosse carrure. Mais tout dépend comment on joue la chose plus tard. Mais je pense que ici, oui, on va le voir pas mal en promo et sur des segments backstage parce que il est très très bon au micro, mais qu'on va pas avoir on va pas le voir caché très 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 souvent. Faut le bon adversaire. Un Velveteen Dream qui finirait d'amorcer un face turn, peut-être, un Ricochet, ce serait une belle rivalité pour Ricochet et Sifry qui viennent d'arriver. Mais dans tous les cas, si joue bien là-bas dans le booking des Sifry et garder ce côté vraiment, ok, c'est pas n'importe qui, il a été champion ultime dans des fédérations, même si c'est des fédérations adverses comme la TNA, il a quand même un pédigré, et c'est dans son personnage. On ne va pas le voir toutes les semaines, on ne va pas le voir toutes les 2 semaines ici free. Il va se réserver pour des grosses occasions. S'il continue à faire comme ça, finalement, comme était Bobby Roode hein, à l'époque d'NXT où il était heel, moi ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Surtout que ça marchait bien et on sait que ici free sait le faire. Donc pour son booking, je ne suis pas inquiet. Faut que ça reste encore quelque chose d'un peu exceptionnel et qu'à chaque fois qu'ici free est à l'écran, eh bien, on sache que c'est quelque chose de. Bah voilà. D'un peu incroyable parce que c'est quand même le top 1%. Hein. Si top 1% tu vois toutes les semaines, c'est plus terrible. Alors on a Samuel, salut Samuel, qui nous dit que Ricochet il voit plus contre Adam Cole. Ouais, Adam Cole Ricochet, moi j'achète, sans aucun problème. Hein. Vas-y, take my money. Je suis pour. On avait aussi. Qui nous disait qu'il y avait un 3 contre 3 d'annoncer Undisputed Era contre Moustache Mountain et Pete Dunne pour Londres. Ça serait très cool. Hein. D'ailleurs, moi, je pensais que c'était Moustache Mountain, donc finalement Tyler Bate et Trent Steven, qui allaient débarquer à la place de Oney Lorcan et Burch, justement, parce que pour reformer le British Strong Style, qui était le gang de Pete Dunne, Tyler Bate et Trent Steven, lorsqu'ils étaient en Angleterre. Donc ça serait très cool. Donc ouais. Samuel pense que Sifry mérite le titre NXT. Je suis aussi d'accord, clairement. Surtout pour conjurer le sort après qu'il ait été viré d'NXT il y a très très longtemps, à l'époque où c'était pas encore le show qu'on connaît et qu'on adore. Donc voilà, ça c'est clair que Sifry, t'inquiète pas, mon cher Diax, je me fais pas de soucis. Ils vont en plus se traiter bien, je pense. Sifry, il a eu de grands traitements de, on le voit en costard au bord du ring après un. À Takeover, comme avait eu effectivement Drew McIntyre. Donc je pense qu'ils ont, Bobby Roode aussi, je pense qu'ils ont de grands plans pour EC3. Et on sait, moi pour l'avoir vu la TNA pas mal, qu'il saura gérer sans aucun problème. Donc déjà, attendons voir la semaine prochaine. Je pense pas qu'il va faire un match juste comme ça et s'en aller. Va y avoir un truc. Donc ça, c'est la semaine prochaine. Hein. Donc la semaine prochaine, comment savoir quand est-ce que sera la review NXT? Eh bien, il n'y a qu'une solution pour ça. Abonnez-vous là, cliquez maintenant, effectivement, abonnez-vous à la chaîne Catch Up. Cliquez sur la petite cloche parce que sinon YouTube vous envoie pas des notifications. Ça, c'est pas bon. Donc, abonnez-vous, la petite cloche, mettez un pouce vers le bas ou le haut. Tout dépend si vous avez aimé ou pas aimé. Laissez un commentaire. Pourquoi pas votre question du smart pour la semaine prochaine à laquelle je répondrai en direct. Autre solution pour savoir qu'est-ce qui se passe du côté Catch-up, eh bien, c'est Twitter ou Facebook. Catch-up CDC, tout simplement. On est aussi en audio sur PodCloud et iTunes. Et puis voilà, le programme, la suite, tout simplement c'est quoi? Bah, ça va être dimanche soir. Dimanche soir, on va avoir un pré-show sur Backlash. Le premier, entre guillemets, nouveau PPV Interbrand donc pour Raw et SmackDown. Donc voilà, donc on aura ça dimanche. Et puis derrière, forcément, il y aura l'analyse de Backlash en début de semaine, puis l'analyse de Raw, de SmackDown et NXT. Et repeat, 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 repeat. Car ça ne s'arrête jamais. Non, 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 ça ne s'arrête jamais. Ah si, je voulais vous parler d'une chose. Une dernière news du Smart avant de vous laisser. Ça y est, on a Keith Lee qui a signé avec WWE NXT. C'est confirmé, hein, Keith Lee. Donc, je crois que c'est Ringside et Hank en parlait dans un Talking Catch. Donc, qui est le big guy le plus en hype des indépendants américains. Donc, gros mec super impressionnant et qui est très très là aussi agile et étonnant par rapport à son gabarit. Donc voilà, il va arriver bientôt à NXT. Peut-être qu'on le verra aux abords d'un ring pour le prochain takeover. Qui sait, c'est comme ça généralement qu'ils font. Donc voilà, moi je vous souhaite encore une fois un super Star Wars Day et surtout un très 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 bon week-end plein de catch. Et merci à tout le monde, à plus, salut.